Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver pour passer ensemble trois gros et agréables quarts d'heure puisqu'on est ensemble jusqu'à 13h avec toujours le même programme, des invités, des chroniqueurs, de la musique et de la bonne humeur. Nous sommes le mardi 2 mars 2021. Il fait beau dans le Beaujolais et le Val-de-Saône. Les températures se situent autour de 15 degrés cet après-midi, maximum 17. Et puis on a un beau soleil et quelques nuages en fin de journée. Au programme de cette émission, eh bien, le coach va nous coacher comme chaque semaine. Il aborde toutes sortes de sujets de société, il nous donne ses conseils. Le libraire ne va pas nous librairer parce que ça ne veut rien dire. Il va très probablement nous conseiller de chouettes choses à lire. C'est Bertrand Lamure qu'on va retrouver en fin d'émission. Mais d'abord, eh bien, on va accueillir nos invités. Alors, avant tout, en octobre 2017, eh bien, le New York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent Harvey Weinstein, un producteur de cinéma américain renommé, de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. Alors cet événement marque la naissance d'un mouvement mondial, le MeToo, le hashtag moi aussi, mouvement social encourageant la prise de parole des femmes afin de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé et afin de permettre aux victimes de s'exprimer sur le sujet. La même année, le président Macron annonce que la cause des femmes sera l'une des premières préoccupations de son mandat. Le monde est mis face aux revendications féministes après des années et des années de lutte, un peu plus d'un siècle, grosso modo. Alors après cette petite prise de conscience, est-ce que beaucoup de choses ont changé ? Ben, c'est pas sûr. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, l'association Solidarité Femmes Beaujolais vous propose de s'informer et d'échanger sur la place des femmes dans la société et leurs droits. Les sujets ne manquent pas, entre les violences que les hommes font subir aux femmes, les discriminations, les inégalités. Il y a de quoi faire. Ça s'appelle le 8 mars, on en parle, et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec nos invités Mandana Etemad et Thibaut Emelin de l'association Solidarité Femmes Beaujolais. Avant toute chose, eh bien, on commence l'émission comme d'habitude en musique. On écoute Famous T, on parle de parité. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Ou routière, ou câblière, infirmière, jardinière, pâtissière, tapissière, biscoutière, joaillière, téléphoniste et machiniste, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, écologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, fermières, costumière, couturière, façonnière, ou gantière, ou lingère, ou ménagère, ou guichetière, ou secrétaire, ou romancière, ou aventurière, vas-y. Continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières qui pour un travail égal, c'est lui qui a fait le mal. La qualification égale, touche-moi, c'est pas normal.
Famous T sur Calade qui nous parle de parité. Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade. Allez, tout de suite, on retrouve nos invités dans Ensemble sur Calade, avec moi en studio, Mandana Etemad et Thibaut Emelin de l'association Solidarité Femmes Beaujolais. Bonjour.
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 Aujourd'hui, vous venez nous parler principalement d'une journée qui arrive dans 7 jours exactement. 6, pardon, ce sera le 8 mars. Bon. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et vous organisez un événement autour de cette journée. D'abord, on va rappeler quand même ce que c'est que l'association Solidarité Femmes Beaujolais.
Oui. Alors l'association, c'est une association qui s'adresse à toutes et à tous sur le territoire du Beaujolais Vert. Et c'est une association qui compte depuis le 1er janvier à peu près 45 adhérents et adhérentes. En fait, la mission principale de l'association, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes, toutes les violences, et en particulier les violences conjugales. Avec une particularité, c'est qu'on s'adresse au milieu rural.
Ouais. Donc... Pour ça, on a mis en place trois types d'actions. Donc, des actions d'accompagnement, des actions de sensibilisation et des actions d'animation. On a pu commencer à organiser des réunions d'information et d'échange avec des professionnels pour améliorer le repérage et l'orientation des femmes victimes de violences conjugales. Et voilà, on se rend compte que ça commence à porter ses fruits puisque notre permanence téléphonique reçoit de plus en plus d'appels. Et nous avons également des permanences de proximité aujourd'hui dans 4 villages du Beaujolais, donc à Montsol, à Lamure, à Amplepuis et à Valsonne. Voilà, après tout, le programme et les dates sont à retrouver sur notre site internet. Et donc, comme je le disais, on a aussi une action d'animation du territoire pour pouvoir à remplir notre mission de lutte contre les violences faites aux femmes. On essaye d'animer le territoire, de parler des inégalités entre les femmes et les hommes, de déconstruire les stéréotypes de genre. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé cet événement le 8 mars, on en parle.
C'est des missions de sensibilisation, vous pouvez les faire dans, je crois, des écoles ou ce genre de choses, aller aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément tous les jours.
Tout à fait, alors ces réunions de sensibilisation, c'est vraiment centré sur les violences conjugales. Qu'est-ce que c'est? Comment on les repère? Comment on oriente? Pour le moment, on intervient, j'allais dire, dans un cadre privé, parce qu'on est intervenu auprès de nos adhérents, auprès de centres sociaux. Et après, l'objectif, quand les conditions sanitaires le permettront, c'est de pouvoir organiser des réunions publiques dans chaque village. Mmh. Aujourd'hui, les communes nous mettent à disposition, enfin, s'engagent à nous mettre à disposition des salles quand on pourra de nouveau faire des rassemblements lors d'une dizaine de personnes. Voilà, donc c'est vraiment ça l'objet de ces réunions.
On vous avait reçu le 18 janvier où on avait parlé de l'association en général et on vous avait bien présenté. Moi, j'invite les auditeurs à aller chercher sur Radio Calade l'interview du 18 janvier s'ils veulent mieux vous connaître. J'aimerais revenir, vous avez dit que l'une des particularités de votre association, c'était le milieu rural. Et en quelques mots, quelles sont les particularités de ce milieu par rapport aux violences conjugales?
Alors, ce qu'on sait, ce sur quoi on est tous d'accord, scientifiques, politiques, c'est que les violences conjugales, elles sont les mêmes sur tous les territoires. C'est important de commencer par ça, c'est-à-dire qu'on soit à la campagne ou à la ville, on compte autant de femmes victimes de violences conjugales autour de nous. C'est une femme sur 10 qui aujourd'hui est victime de violences. Et on dit que dans sa vie, une femme sur 5 sera victime de violences conjugales. Ça, c'est le même chiffre partout. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en milieu rural, du fait de l'éloignement des points d'accès aux droits, du fait de l'information, du fait des difficultés à se rendre disponible et à pouvoir rencontrer des professionnels qui aident à sortir de ces violences, de ce fait-là, cet éloignement, eh bien, les violences conjugales durent plus longtemps. Et quand ces violences-là durent longtemps, eh bien, elles s'aggravent parce qu'elles sont construites sur un cycle qui se répète et qui est une spirale et qui s'aggrave de plus en plus. L'une des illustrations importantes, hein, il faut l'avoir en tête, c'est que 50% des féminicides aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes qui sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, eh bien, ça se passe en milieu rural. Alors que sur le territoire français, on a finalement, alors selon les chiffres, hein, selon les sources, mais on a 30-40% de la population qui vit en territoire rural, c'est tout. Donc on a des conséquences plus graves en milieu rural et à la fois plus de difficultés à y aller parce qu'il faut qu'on soit proche des gens géographiquement.
Ouais.
Il y a des chiffres qui sont quand même glaçants dans ce que vous citez, une femme sur 10 victime de violence actuellement et une sur 5 qui a été ou qui va être victime de violence d'après les statistiques.
Oui. Et la situation dans laquelle on a tous été, Thibaut, moi, beaucoup de professionnels, c'est que on a tous été dans la situation de ne pas les voir. On ne savait pas, on ne les voyait pas. On en a eu tous dans notre entourage, et aujourd'hui c'est le cas pour tout le monde, on en a, on les croise, mais on ne sait pas le voir. Et quand on le voit, ou quand on a des indices, ou quand on a des doutes, on ne sait pas toujours quoi faire.
D'où l'importance de savoir repérer les signes et de savoir comment agir quand on est témoin ou quand on a des doutes, alors qu'on soit professionnel de santé ou qu'on soit du souci pour une amie ou un proche. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Basiquement, le premier là qu'on peut donner très très rapidement, c'est dès qu'il y a un doute, donner l'information sur ce qui existe. L'association qui est proche de chez vous ou le numéro national, le 3919. Mais fournir l'information, quoi qu'il arrive, c'est vraiment pour nous la base et la clé pour arriver justement à faire baisser ce chiffre et à faire reculer les violences conjugales.
Et donner l'information, c'est justement ce que vous faites, c'est votre mission principale. Et autour de cette journée qui approche, le 8 mars, vous avez organisé déjà depuis le 8 février, vous avez pris un mois d'avance, toute une campagne de communication. Expliquez-nous un petit peu la démarche que vous avez mise en place.
Ce qu'on voudrait pour cette journée du 8 mars, donc je le rappelle, qui est la journée internationale pour les droits des femmes, c'est que chacun puisse prendre un moment ce jour-là, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, pourquoi pas, avec qui il veut, avec son conjoint le matin au café, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses collègues, avec les membres de son association, mais que chacun puisse prendre un moment, organise un moment pour se poser et échanger sur les droits des femmes. Alors que ce soit sur le droit de vote, que ce soit sur les violences faites aux femmes, que ce soit sur les inégalités économiques, mais qu'on se pose et puis on en discute.
Voilà, donc on a essayé vraiment de fournir en tout cas des éléments pour permettre le débat, pour créer le débat, et pour que ceux qui se sentent puissent s'appuyer aussi sur des sources qui sont fiables. Voilà, ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, on essaye de le documenter au maximum pour que justement chacun puisse se sentir d'organiser ces moments-là.
Et alors oui, justement, et qu'on en parle, et que ce soit pas une journée qu'on se dise, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes, et puis demain, ce sera un autre jour. Mais que vraiment, ce jour-là, il se passe quelque chose entre les gens, qu'il y ait du débat, et que les gens agissent, c'est ça, qu'ils deviennent acteurs.
Après, effectivement, pendant un long moment, en fait, cette journée, elle est souvent même encore considérée comme la journée de la femme, ce qui est un raccourci qui est, à notre sens, assez problématique, parce que bien souvent, en général, les hommes se contentent d'offrir une fleur à leur femme en disant c'est ta journée, et puis on va pas plus loin, on n'essaye pas de se poser pour réfléchir. Donc pour nous, déjà, c'est important de bien renommer cette journée, c'est la journée internationale pour le droit des femmes.
Et parler des droits des femmes, en fait, ça a du sens parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les sources gouvernementales qu'on utilise, quand on regarde l'INSEE, quand on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, on voit qu'en fait, les droits des femmes ont besoin d'être rappelés, ont besoin d'être défendus. Si on travaille pour l'égalité homme-femme, c'est parce que ça aura un impact, c'est certain, sur les violences faites aux femmes. Tout ça, c'est lié. On vous renvoie vers un des articles qu'on a fait sur les réseaux sociaux, sur notre site internet qui parle en fait de la convention d'Istanbul, qui est une convention donc européenne où c'est très bien expliqué, les violences domestiques prennent leur source dans les rapports de domination et d'inégalité qui sont présents dans la société.
Alors pour que chacun puisse parler justement des droits des femmes et puisse aborder ces sujets, vous avez mis depuis un mois sur les réseaux sociaux des outils en avant pour qu'on ait des connaissances, des chiffres. Il y a des sujets qui sont... Il y a différents sujets parce qu'il y a plein de façons d'aborder la question des droits des femmes. On peut parler déjà du droit de vote, de la lutte pour les droits fondamentaux en fait qui sont assez importants, et là les inégalités on les voit tout de suite.
Tout à fait, donc effectivement on a pu réfléchir sur cette question là on s'aperçoit que le droit de vote des femmes, c'est quelque chose qui arrivait très tard en France, plus que dans d'autres pays, mais ça date de 1945, donc on voit effectivement que c'est récent, très récent, et après quand on va plus loin, on s'aperçoit qu'effectivement c'est un premier pas. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui entame peut-être une démarche vers une égalité entre les femmes et les hommes. Mais aujourd'hui, en 2016, j'ai des chiffres de 2016 en tête, c'est pour ça. Aujourd'hui, en 2021, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et on est face à une problématique où, effectivement, il y a un certain nombre de lois qui réglementent l'égalité, qui des fois peuvent être contraignantes, mais on s'aperçoit que finalement, les mentalités vont moins vite que les lois. Donc c'est pour ça que on veut pousser les gens à s'interroger sur vraiment quelles sont les inégalités qui peuvent changer au quotidien. Deux chiffres très très rapidement, par exemple, dans la sphère professionnelle, il y a une étude du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle qui dit que 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes. Dans le cadre privé, pareil, c'est une enquête de l'INSEE qui dit que la répartition des tâches domestiques sont réalisées à 72% par les femmes. Et malheureusement, les 28% restants, souvent, ce sont les femmes qui en ont la charge. Alors c'est un terme qu'aujourd'hui on emploie un peu plus, qui est de plus en plus visible, mais on peut parler à ce moment-là de charge mentale pour ces 28% restants, effectivement.
Mmh. C'est-à-dire que c'est peut-être l'homme qui le fait dans le couple, mais c'est la femme qui doit lui dire « oublie pas de... »
Exactement. C'est ça, la charge mentale. On prend souvent l'exemple de la cuisine. On a des couples où l'homme va dire « bah oui, moi je fais la cuisine aussi, d'accord, très bien, mais est-ce que vous avez choisi... Qui a choisi le repas? Qui a vérifié que... on ne mangeait pas la même chose qu'il y a deux jours ou trois jours. Qui a fait les courses ou qui a fait la liste de courses? Qui a vérifié que dans les quantités achetées, ça correspondait bien aux quantités qu'il fallait cuisiner, qu'on aurait bien tous les ingrédients, que cette recette-là convenait bien au goût de chacun? Il y a une quantité de questions satellites, en fait, qui sont autour d'une action. J'ai fait à manger, très bien, mais toute l'organisation qui est autour, qui s'en est chargée? Et ça aussi, il faut que ce soit, partagé.
Donc, ouais, la question de la charge mentale qui est importante. Alors, parmi les sujets que vous abordez, il y a aussi l'un des sujets qui est prioritaire pour vous, c'est toutes les questions des violences. Là, on constate que ça se décline sous de nombreuses formes, les violences faites aux femmes.
Oui, exactement. C'est important pour nous d'amener des éléments de compréhension et de monter en connaissance sur ces sujets-là, parce qu'on a beaucoup de préjugés. On a essayé de répondre à des questions toutes simples. Pourquoi est-ce que les femmes victimes de violences conjugales, elles ne partent pas? On va expliquer ce que c'est que le cycle des violences. Quelle est la stratégie qui est mise en place par l'agresseur pour retenir les femmes dans leur couple? On a essayé de dire aussi qu'est-ce que c'est la violence psychologique. Parce que la violence psychologique, c'est beaucoup moins reconnu ou beaucoup moins visible qu'un coup qui peut laisser des traces. Est-ce que si mon conjoint est jaloux, est-ce que c'est de la violence? Ça peut l'être. Est-ce que si mon conjoint exige des photos intimes de moi, est-ce que c'est de la violence ou est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est parce qu'il m'aime qu'il me demande ces photos-là? Si je veux pas aller où la violence, c'est important qu'on puisse se questionner sur ces choses-là. Et puis on a rappelé aussi des chiffres, puisque on l'a dit au début, une femme sur 10 est victime de violence conjugale. Mais c'est 45% des jeunes femmes de 16 à 20 ans qui ont déjà subi de la violence de la part de leur partenaire, amoureux, conjoint, celui qui est censé être leur petit copain. C'est 45% de ces jeunes femmes-là qui sont, donc je le répète, entre 16 et 20 ans, qui ont déjà subi de la violence. Faut qu'on se pose la question de dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change?
Et il y a les questions des violences sexuelles en particulier, des viols qui sont où on peut voir des chiffres encore une fois glaçants sur les informations que vous donnez, et notamment sur le cadre des connaissances en fait des personnes proches. Peut-être que vous pourrez mieux développer que moi, mais.
Oui, les violences sexuelles, ça c'est un point qui est très important pour nous parce que justement c'est un sujet difficile. On ne sait pas toujours comment l'aborder, on ne sait pas comment le formuler. Alors on a rappelé des choses simples. Le viol, c'est un crime. C'est un crime qui est passible de 15 ans de prison. Et c'est important de se le dire, c'est dramatique pour les victimes. Et ce qu'on veut préciser, c'est que quand on viole son conjoint ou sa conjointe, c'est 20 ans de prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on précise que le devoir conjugal n'existe pas et que tout acte pratique sexuelle, toute pratique, en fait, doit obtenir l'accord de son conjoint. On a rappelé des choses importantes pour répondre aussi aux préjugés qu'on peut avoir là-dessus. C'est que 90% des agresseurs sont connus par leurs victimes. On peut penser que le viol, eh ben, ça se passe dans des parkings mal famés, que c'est quand je suis, je sais pas, moi, en balade dans la forêt, je passe, je croise malheureusement un détraqué. Eh ben non, 90% des cas, en fait, c'est quelqu'un que je connais qui est mon agresseur. Et pour préciser même, c'est même 50% quelqu'un de la famille, dont son conjoint. Aujourd'hui, c'est une femme sur quatre qui a déjà été forcée par son conjoint à des pratiques sexuelles ou à des rapports sexuels. Et ben, il faut bien que quelqu'un en parle, parce que ça a des conséquences dramatiques pour tout le monde, en fait, pour les victimes et pour leur cercle proche.
Est-ce qu'on peut rappeler l'importance d'en parler? Quand on en parle là, aujourd'hui à la radio, quand on crée le débat dans son cercle proche, dans sa famille, au travail, qu'est-ce que ça va apporter dans...
En fait, le fait de pouvoir en parler, ça permet en fait de se poser la question à son niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que effectivement, il y a de l'information. Vous avez parlé de MeToo tout à l'heure. Aujourd'hui, on assiste aussi à un nouveau hashtag sur la question du viol, sur la question de l'inceste. Et souvent, on assiste à ça. On voit les chiffres qui passent à la télé et ça ne rejaillit pas forcément sur notre quotidien. Donc, l'important de pouvoir en parler, échanger, c'est d'arriver à se dire, bah voilà, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que moi ça va changer dans mon rapport aux autres? Qu'est-ce que ça va changer dans mon couple? Qu'est-ce que ça va changer dans mon rapport aux femmes, dans mon rapport aux hommes? Et c'est important, effectivement, d'en parler et de se poser la question à soi, que vraiment chacun fasse sien tous ces chiffres qui, effectivement, peuvent nous tomber dessus. Mais c'est important de pouvoir engager une démarche qui soit vraiment personnelle, quelque chose une réflexion personnelle, qui doit démarrer effectivement en groupe. C'est pour ça que nous on propose d'en parler. Pour finir, le 8 mars, on va être présent effectivement à Lamure-sur-Azergue, au quartier Métisseur, de 13h à 18h, pour accueillir en présentiel des gens qui voudraient, qui se posent des questions, qui voudraient débattre avec nous. On sera présent pour parler de ces questions-là avec eux. Et on sera aussi présent donc à Amplepuis, le 8 et le 9 mars, de 9h30 à 12h30. Donc c'est au cabinet médical 12 Place de l'Industrie. Bien sûr, le 8 mars.
Et il y a de nombreux rendez-vous qui sont organisés même tout au long de la semaine, jeudi, vendredi, samedi et lundi prochain. On retrouve tout ça sur votre site internet. On les mettra sur notre site internet si vous allez chercher le podcast de l'émission. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce que vous préparez là, pour cette journée du 8 mars et que vous allez faire vivre. Je crois que le projet, c'est aussi que ça continue et que ça ne s'arrête pas juste à cette journée-là particulièrement.
Oui, oui.
Merci en tout cas de nous avoir invités. Merci beaucoup.
On va se quitter en musique. 39 femmes nous chantent l'hymne du MLF, Debout les femmes.
Et brisons nos entrailles.
Debout les femmes nous chante eh bien, 39 femmes pour le MLF, la Maison de Libération des Femmes.
Bonjour, on voudrait voir votre mâle dominant.
Il est là-bas.
Ils sont à vous, coach.
Ensemble sur Calade, le coach.
Et oui, tout de suite, on retrouve le coach sur Calade comme chaque mardi. Bonjour.
Salut, gamin.
Ça va bien, en forme ?
Ça va bien, je vois que tu m'as bien préparé le terrain là, avec un beau sujet sur la Journée internationale des droits des femmes.
Oui, effectivement.
C'est le panard pour moi de m'exprimer après ça.
Allez, le tapis rouge est roulé, déroulé, je ne sais pas comment on dit.
Merci gamin, c'est gentil. Alors, quand j'étais moi-même gamin, c'était quand on payait en francs, bah, on avait une expression qui disait « je ne parle pas aux cons, ça les instruit ». Ça fait belle lurette que j'ai compris que c'était pas vrai, hein. Et c'est d'autant plus pas vrai que si le con a une autoestime de lui, de lui parler, ça va vraiment servir à rien.
C'est pas la peine.
Et j'en ai débusqué un la semaine dernière, et je me suis dit, mon gars, ah ouais, faut pas croire qu'il y a que vous que j'appelle les gars. Moi aussi, je m'appelle mon gars, les gars, hein, des fois. Hein. Donc celui que j'ai débusqué la semaine dernière, ce trouduc, je me suis dit, ça vaut pas la peine que tu parles de lui à la radio. Faut éviter de parler des cons de peur qu'ils ne se sentent encore plus importants. Mais tu vois, on est dans une période où il y a quand même de nombreuses priorités à traiter. Il faut garder son énergie et son temps pour s'en occuper de ces choses importantes. C'est d'autant plus vrai, par exemple, pour nos députés. Moi, je me dis que les députés, ben, ils ont un sacré taf avec la pandémie et la crise économique. Et qu'il ne faut pas qu'ils se dispersent, les gars. Eh bien, mon cono de la semaine, il s'est dit, il y a un sujet prioritaire tellement important pour gaspiller son temps et son énergie, le temps et l'énergie des autres députés et surtout notre temps. Sa priorité à ce cono, c'était interdire une pratique qu'il décrit comme étant dangereuse et qui crée d'après lui de la confusion. J'espère que j'ai installé un peu de crainte dans vos oreilles.
Ouais, il y a un climat d'anxiété, bien sûr.
Voilà. Le bonhomme, il se nomme François Jolivet, son petit nom. Son urgence à lui, c'est d'interdire l'écriture inclusive. C'est ça, son urgence.
L'interdire, carrément.
Ah oui, l'interdire. Et lui, non, il veut interdire. Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce qu'est l'écriture inclusive, c'est une écriture où l'on fait apparaître le féminin, dans les phrases là où la règle grammaticale veut que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Concrètement, il y a plusieurs méthodes pour faire apparaître le féminin dans un écrit. Lorsqu'un mot, par exemple, a deux terminaisons possibles en fonction du genre, ben, on double la terminaison en séparant les deux terminaisons par un point ou un tiret. Alors, ça donne, par exemple, pour la phrase, hein, je vous laisse imaginer que vous êtes en train de l'écrire sur un tableau, la phrase « je suis surpris par tant de bêtises », eh ben, où nous sommes surpris par tant de bêtises, ben vous allez écrire « nous sommes surpris » si vous parlez au nom d'hommes et de femmes. Vous allez écrire « nous sommes surpris », IS, et un petit tiret, ISES, donc « nous sommes surpris », surprise, voilà. L'autre méthode, ben, ça consiste à doubler les mots pour faire apparaître le nom au féminin à côté du nom au masculin. Par exemple, si je prends une phrase « les auditeurs adorent les chroniques du coach », eh bien… Si je l'écris en écriture inclusive, ça peut devenir « les auditeurs et les auditrices adorent les chroniques du coach ». D'ailleurs, c'est vrai parce que les auditrices aussi, elles adorent mes chroniques.
C'est
alors
vrai.
Pourquoi ne pas en parler ?
Il faut le dire.
Alors, je suis d'accord, ça peut rallonger un peu les mots. Et il faut reconnaître que, bah voilà, on double les mots comme ça. Ça demande une petite gymnastique, mais rendons-nous compte que la capacité d'adaptation de notre cerveau permet facilement de lire un texte en écriture inclusive. Il n'y a pas quoi de se décrocher les yeux, hein. Et c'est un coup de main qu'on va prendre en moins de 10 secondes. Alors, moi, du coup, je ne comprends pas pourquoi le Gus parle de pratiques dangereuses. Là, on a l'impression ouais. qu'il a les baloches qui vont se décrocher s'il lit un texte en écriture inclusive.
Qu'est-ce qu'il c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il reproche à l'écriture inclusive, du coup?
Ah, bah lui, il a peur que ça soit compliqué. Et que ce soit pas joli si on commence à écrire une écriture inclusive et qu'il faut pas changer l'écriture, elle est comme elle est. Tu vois, la fragilité de ces bonhommes, elle est vraiment stupéfiante hein, quand même.
Ouais.
Alors, si j'ai choisi de vous parler de cette histoire, c'est qu'elle vient faire écho avec des situations qu'il nous arrive de vivre en tant qu'homme et qui m'interrogent en tant que nouveau mâle alpha. Lorsqu'il m'arrive d'être le seul homme dans un groupe de femmes, ils arrivent qu'elles genrent leur phrase au féminin. Par exemple, elles vont dire bonjour à toutes, ou elles vont dire êtes-vous toutes d'accord ? Alors, rien de grave, mais à chaque fois, elles s'excusent auprès de moi d'avoir genré la phrase au féminin. C'est-à-dire, même si elles sont 60 dans la pièce et que je suis le seul mec, elles vont s'excuser d'avoir genré la phrase au féminin et de ne pas avoir l'avoir fait au masculin, tu vois. Ouais. Alors, lorsque c'est un homme qui s'adresse à une assemblée, par exemple, qui est au féminin, puis il n'y a que votre coach qui est là, s'il a eu le malheur de genrer au féminin aussi, bah, il se confond en excuses. Lui, il trouve que c'est encore plus grave. On a l'impression que si je suis invisibilisé en tant que seul homme au sein d'une assemblée de femmes, bah, c'est tragique et catastrophique. Par contre, les femmes invisibilisées dans la langue, ça pose de problème à personne.
C'est la normale. Ouais.
Les femmes qui se retrouvent sous l'appellation générale les hommes avec un grand H, quand on parle de l'humanité, et ben ça leur pose pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème qu'on parle de qu'on fasse un groupe homme plus femme égale les hommes. Je vois pas où le problème. Si nous espérons sincèrement vivre dans une société où les hommes et les femmes ont un rapport d'égalité, où un genre n'est pas dévalorisé par rapport à l'autre, ben nous devons nous poser la question de l'égalité dans la visibilité. Cela passe aussi par la langue qui dit notre réalité. Et aujourd'hui, notre réalité, c'est que dès qu'il s'agit de nommer un groupe mixte, les femmes sont invisibilisées par notre langue. Et c'est ça qui est peut-être pas normal et qui ont poussé certaines femmes à demander qu'on utilise l'écriture inclusive. Alors, si le gars François, il trouve ça vraiment difficile d'écrire en inclusif, de mettre des petits tirets, des points ou de faire des répétitions, on peut lui proposer un truc vachement plus simple, c'est d'adopter ce qu'on appelle le féminin générique. Est-ce que tu sais ce que c'est, gamin, le féminin générique ?
J'imagine que c'est le contraire du masculin l'emporte sur le féminin ?
T'as tout compris, gamin. Qu'est-ce que j'aime, l'intelligence, gamin. Tu vas aller loin. Bah, comme tu viens si bien de le dire, c'est qu'on va écrire par défaut les phrases au féminin. D'accord ? Et après des siècles de masculin qui l'emportent sur le féminin, moi je me dis, pourquoi ne pas essayer de faire l'inverse ? Après tout, en y réfléchissant bien, c'est à la langue de s'adapter à la réalité d'une époque et non à la réalité de s'adapter à la langue. Parce que la langue, elle est toujours en mouvement, elle change et elle ne peut pas rester figée. Même si les académiciens, ils ont envie que ça reste comme ça.
Ils aimeraient bien.
Alors c'est vrai, ça nous demanderait un peu d'adaptation au début, hein, mais que François et tous les autres mâles fragiles se rassurent, leurs noyaux resteront bien en place et ils pourront compter sur les nouveaux mâles alpha pour leur donner des cours de grammaire égalitaire.
Merci beaucoup, coach. Merci pour ces mots sur l'écriture inclusive. On se donne rendez-vous.
Si j'étais taquin, gamin, je te conseillerais pour le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, de faire toute ton émission en féminin générique.
À essayer, ça va pas être facile, va falloir changer toutes ses habitudes.
Ça.
C'est un beau défi. Bon, allez, j'essaye. Je le relève. Merci beaucoup, coach. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, gamin, et prenez toutes et tous bien soin de vous.
Ciao, ciao.
Ensemble, sur le calade.
Allez, j'ai l'impression que le François dont nous parlait le coach a un petit peu peur des filles.
Sous
Des filles, c'était l'impératrice sur Calade.
Vous connaissez Wismans ?
Non, monsieur.
C'est un excellent auteur, je l'aime beaucoup.
Moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps.
Mais ils savent pas lire, ils risquent pas de retrouver un bouquin.
Ensemble sur Calade, l'humeur littéraire du libraire.
C'est de la littérature.
C'est important la lecture.
Allez, c'est effectivement l'heure de l'humeur littéraire du libraire. Et pour ça, on retrouve Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, alors, chaque semaine, on a les conseils de notre libraire. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Bertrand ?
Eh bien, Mathieu, nous sommes au mois de mars, et le mois de mars, c'est le mois de la poésie. Le printemps, hein, parce que c'est le printemps des poètes, hein, printemps des poètes, c'est sa 23e édition. Et c'est toujours un bon moment de mettre en avant la poésie, j'allais dire en librairie, mais aussi dans la vie. Hein. Mmh. Toujours un peu compliqué la poésie. Hein. Je vois moi en librairie, j'ai une petite appréhension quand je propose à des personnes de la poésie, voire pire quand je propose qu'ils offrent de la poésie. Un stress, disant oh là là. Cette année, le thème sera le désir. Alors, je commence tout de suite par une petite citation d'une grande dame de la poésie qui est Marceline Desbordes de Halmore. Avec un nom comme ça, elle ne pouvait être qu'une poète. « Idole de ma vie, mon tourment, mon plaisir, dis-moi si ton envie s'accorde à mon désir. » C'est parti, un mois de printemps des poètes autour du désir. Alors, je voulais surtout mettre en avant une maison d'édition, qui est la maison d'édition Bruno Doucet. Je pense que j'en ai déjà parlé sur Calade. Bruno Doucet est un écrivain, mais également un poète. Et il a fait le pari, il y a un peu plus de 10 ans, de monter une maison d'édition, spéciale poésie. Pari très très risqué dans un pays comme la France qui adore la poésie, mais qui n'en achète pas tellement. Là, il en est à peu près, on n'est pas loin du 200e livre de poésie qu'il a publié, de la poésie qui vient du monde entier. Il a aussi bien trouvé de la poésie du côté de Haïti, ça c'est plus connu, mais du côté de la Corée du Sud. Il a tout un panel qui est absolument magnifique. Et il a fait, effectivement, pour le printemps des poètes, comme chaque année, une anthologie de la poésie, autour du thème, bien évidemment, du désir. Il y a vraiment de très très belles choses. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est un petit peu comme ma fascination pour le haïku. Et voilà, la poésie, ça se déguste, ça s'oublie, et puis on y revient. C'est quelque chose qui... Moi, je trouve qu'il est très important à des moments de la journée, des moments de notre existence, d'avoir un poème pas très loin. Je trouve que tout de suite, ça nous fait du bien. Alors, exceptionnellement, j'ai invité dans cette petite chronique une comédienne qui est, ma foi, très connue en Calabre, qui est Carole Genetier, et qui va se faire le plaisir de vous lire un poème. Donc, un poème de Luis Sepúlveda.
Eh bien, on va l'écouter avec grand plaisir. Merci pour ce cadeau.
Chemin. Tu marcheras alors inachevé par les routes sinueuses de la poésie. Tu enterreras les préjugés grossiers et la morale obscurcie par le temps. Tu entendras l'appel fauve de la vie et tu gronderas comme un éclair dans tes vers. Tes cierges illumineront les horizons opaques, et alors, quand indéfini dans le temps, tu abattras les frontières de ton existence, déjà femme, déjà femelle, tu construiras ton avenir dans une constellation d'étoiles et de poèmes.
Voilà, du coup, ce très beau poème. Alors, plus sur le désir, mais c'est aussi sur le chemin, le temps qui avance. Donc, merci à Carole.
Ah bah merci infiniment.
Ce bel extrait. Alors, on va pas... La poésie, ce n'est pas forcément que sur le désir, hein. On est bien d'accord. Là, c'est le thème du printemps des poètes, 23e. C'est aussi, je trouve, d'aller à la découverte de textes, d'auteurs, d'éditeurs qui sont parfois peu connus. Alors, je voulais mettre en avant, voilà, c'est ma fascination pour les maisons d'édition, parce que je trouve que sans les maisons d'édition, on n'est rien, nous libraires, mais aussi les auteurs. Donc, c'est eux qui font des choix absolument magnifiques. Mmh. Il y a quelques années, Antoine Gillardot a créé une petite maison d'édition, poétique également, mais dans une boucherie. Et oui, c'est comme ça. Hein, voilà. Et il a appelé tout simplement sa maison d'édition la boucherie littéraire. Et voilà, je conseille à tout le monde d'aller un petit peu glaner du côté donc de cette boucherie littéraire. Il a évidemment un site et puis il a toute une série de publications et il y a vraiment de très beaux textes. Mais là, on est dans la poésie contemporaine qui peut un peu effrayer, c'est-à-dire que on est un peu loin de Baudelaire, on est un petit peu loin des grands classiques. Petite parenthèse quand même, ne pas oublier et bien inscrire sur l'agenda que le 9 avril, c'est les 200 ans de la naissance de Baudelaire. Il ne s'agira pas d'oublier Mathieu. Hein.
Le 9 avril, c'est noté.
Le 9 avril. Donc voilà, je trouve que la poésie contemporaine aujourd'hui a de très très, il y a de très très beaux exemples. Et je voulais terminer justement avec Thomas Vinot. Alors Thomas Vinot est un écrivain un petit peu, voilà, vagabondant, hein, sur des textes assez originaux, et il fait aussi de la poésie. Il avait fait un premier recueil de poèmes il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait « C'est un beau jour pour ne pas mourir ». Pourquoi pas, mais c'est très bien. Alors, je voulais en lire un ou deux extraits, il faudra m'arrêter, c'est très court, hein, si on n'a plus le temps. Le premier s'appelle « Flash Info ». Hier est devenu aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, l'opération serait concluante. Voilà, petit texte très court, que je trouve très, voilà, très original, très, très bien vu. Et puisque je n'ai encore pas d'arrêt du grand chef, j'en cite un deuxième. Un autre petit texte très court qui s'appelle « Les gros mots ».
Oui.
Il y a quelque chose de tendre, quelque chose du refus, quelque chose de l'enfance, quelque chose qui nous rit au nez. Il y a quelque chose qui nous sauve dans les gros mots. Voilà. Alors ça, c'est Thomas Vinot. Ça s'appelle « J'écris avec un caillou dans la chaussure ». Et ça avait été publié, c'est publié très récemment au Castor Astral. Castor Astral, aussi bien littérature que poésie. Et là, il y a vraiment de très très beaux textes. Il y a entre autres une grande dame déjà, du haut de ses 30 ans, de la littérature, qui est Cécile Coulomb, qui fait aussi de temps en temps de la poésie au Castor Astral. Donc en fait, quand on met le pied dans la poésie, quand on entame ce cheminement, il y a vraiment des poètes qui ont un univers absolument magnifique. Et par exemple, Thomas Vinot, c'est des textes courts, des textes la poésie du réel, hein, la poésie de nos vies. Et alors vraiment, quand on se plonge dedans, je trouve que ça nous fait rêver, ça nous fait rire.
Il y a une ressemblance avec le haïku, du coup, avec ces textes très courts.
Alors, s'il y a un petit peu chez Thomas Vinot, c'est des textes courts qui, pour certains, se rapprochent du haïku. Et voilà, c'est vrai. On est moins dans le côté poésie qu'on a appris à l'école, avec les quatrains et autres, et il ne s'agissait pas de se tromper. Ouais. Voilà, aujourd'hui, la poésie peut être déstructurée, peut être inventive, elle peut jouer aussi sur le format, c'est-à-dire dans le recueil de poésie, il peut y avoir une organisation déstructurée, ça peut être aussi sur du très beau papier, la boucherie littéraire fait de très beaux textes avec du très beau papier. Mmh. Donc voilà, c'est que le monde de la poésie, ça peut être le fond et la forme. Et c'est ça qui est assez magique et qui prête à la rêverie.
Parfait. Merci beaucoup, Bertrand, pour ces petites lectures. Et merci à Carole Gentil aussi de vous avoir accompagné pour nous lire un poème.
Eh bien oui, et puis bon mois de la poésie à tous.
Merci. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
À bientôt.
Au revoir. Soir.
Ensemble sur le Calade.
Allez, ça va être la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Vous la retrouverez en podcast dès cet après-midi sur radio-calade.fr. Elle sera en rediffusion comme d'habitude demain à 10h. Et puis d'ici quelques secondes sur Calade, vous retrouvez le journal de RFI ainsi que le journal local pour connaître toutes les informations nationales, internationales et locales surtout. Et puis à 14h, vous retrouvez Georges Botton pour son émission de jazz traditionnel, la 101e. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, prenez bien soin de vous et à demain. Donc, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade 101.5.